Gloire au Seigneur. Bien bonjour à chacun et à chacune. Et nous sommes très heureux d'être ensemble dans la présence de Dieu autour de sa parole. Bien bonjour à tous ceux qui sont dans la salle et à ceux qui sont au Zoom. Que le Seigneur vous bénisse aussi parce que nous sommes heureux de pouvoir ensemble partager la bonne et précieuse parole de Dieu. Nous nous souvenons que Jésus a dit que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu ou qui procède de la bouche de Dieu. C'est ce que nous allons essayer de faire ce matin pour la gloire de son nom et pour notre bonheur à chacun de nous, que son nom soit béni. Je vous propose deux lectures, la première dans l'Épître aux Colossiens au chapitre 1er et au verset 1er. Épître aux Colossiens, chapitre 1 et verset 1. Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, et le frère Timothée, aux saints et fidèles frères en Christ, qui sont à Colosse, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père. Nous rendons grâce à Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, et nous ne cessons de prier pour vous, ayant été informés de votre foi en Jésus-Christ, et de votre amour pour tous les saints. À cause de l'espérance qui vous est réservée dans les cieux, et que la parole de la vérité, la parole de l'Évangile vous a précédemment fait connaître. Il est au milieu de vous et dans le monde entier. Il porte des fruits et il s'accroît, comme c'est aussi le cas parmi vous. Depuis le jour où vous avez entendu et connu la grâce de Dieu, conformément à la vérité, d'après les instructions qui vous ont été données, que vous avez reçues d'Épaphras, notre bien-aimé compagnon de service. Il est pour vous un fidèle ministre Christ et il nous a appris de quel amour vous êtes animés. C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier pour vous tous. Pour vous, nous demandons que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu et fortifié et à tous égards par la puissance glorieuse en sorte que vous soyez toujours et avec joie persévérant et patient que Dieu bénisse pour nous sa bonne et précieuse parole. Il est question ici de la volonté de Dieu. Oh, la volonté de Dieu, c'est un mot barbare. C'est un mot qui semble étrange. C'est un terme qui semble inaccessible. Et que certains disent, oh, la volonté de Dieu, mais qui peut la connaître? La volonté de Dieu, qui peut la connaître? Or, nous, enfants de Dieu, nous sommes heureux et fiers de pouvoir dire que la volonté de Dieu, nous l'aimons, nous la connaissons et nous cherchons à mieux la connaître encore. Parce que l'apôtre Paul écrivant aux Romains dit, la volonté de Dieu, elle est bonne, agréable et parfaite. La volonté de Dieu, elle est bonne. Et l'apôtre aux Colossiens leur demande, leur écrit, leur demande, il les encourage, comme à chacun de nous, à être remplis de la connaissance de la volonté de Dieu. Non seulement la percevoir de manière confuse, mais la connaître et plus en être rempli de la connaissance de la volonté de Dieu. Cela veut dire tout simplement que la volonté de Dieu ne doit pas être abstraite ou absente de nos vies, de nos cœurs. Elle doit être présente tous les jours, bien connue de chacun de nous et aimée de chacun de nous pour la mettre en pratique, bien sûr. Que soyez pleinement, que vous connaissiez pleinement la volonté de Dieu. Car il est évident que... Merci. Il est évident que dans la vie, et ça concerne le texte que nous n'avons pas lu et que je voudrais vous lire maintenant, ben la vie, elle est bizarre, elle est drôle. Et le deuxième texte que je voulais vous lire, c'est dans la première épître de Jean, au chapitre 2, et à partir du verset 12. 1 Jean chapitre 2 et verset 12, où il est écrit ceci. Je vous écris, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous écris, jeunes gens, parce que vous avez vaincu le malin. Je vous écris, petits enfants, parce que vous avez connu le Père. Je vous écris, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts et que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le malin. Que Dieu soit béni. L'apôtre Jean écrit aux chrétiens de l'époque et par extension à chacun d'entre nous. Il écrit au peuple de Dieu en partageant le peuple de Dieu en quelque sorte en trois catégories. Il écrit d'abord aux petits-enfants, ensuite il écrit aux jeunes, et ensuite il écrit aux pères. Et ces trois catégories de chrétiens, c'est par rapport à leur âge spirituel. Il écrit aux petits-enfants, c'est-à-dire ceux qui viennent de naître de nouveau, ils viennent d'entrer dans l'Église, et par voie de conséquence, comme dans la vie de tous les jours, un enfant qui vient au monde, bien, il a encore tout à apprendre. Même nous qui avons déjà des années d'existence, nous avons bien des choses à apprendre. Mais celui qui vient au monde a tout à apprendre. Ainsi, cet homme, cette femme, ce garçon, cette fille qui vient au Seigneur, qui vient de se convertir, qui découvre les choses de Dieu, qui découvre d'abord la personne de Jésus comme son sauveur personnel, mais il a encore bien des choses à apprendre par rapport à Jésus, mais par rapport à lui-même et par rapport à l'Église. Il a encore tout à apprendre, bien sûr, et il faut qu'il apprenne les choses. Il est évident donc que comme dans la vie de tous les jours, eh bien, nous marchons en fonction de notre âge spirituel, en fonction de ce que nous avons appris depuis le jour où nous avons rencontré le Seigneur, des expériences que nous avons faites, de la réception de la parole de Dieu qui nous a été donnée, comment nous l'avons reçue et comment elle est entrée dans notre cœur. Jean donc écrit aux petits-enfants, aux jeunes gens, je le disais tout à l'heure, et aux pères, ceux qui sont anciens dans la foi. Dans le livre de la Genèse, chapitre 17, et au verset 1er, Dieu me parle à Abraham et lui dit, marche devant ma face et sois intègre. Il ne lui demande pas autre chose. Marche devant ma face et sois intègre. Il y a deux choses à relever, à souligner si vous voulez, ici. La première, c'est marcher devant le Seigneur, en ayant bien conscience que le Seigneur est là, que nous sommes dans sa présence, et que là où je suis, le Seigneur est aussi. Donc, que je mange, que je boive, que je travaille, que je voyage, à pied, à vélo, en bus, eh bien, je marche devant le Seigneur, il est là, que son nom soit béni. Marche devant le Seigneur. Marche devant le Seigneur. Parce que le Seigneur est là. Et c'est évident, mais je le souligne quand même, qu'aucun adulte, aucun père, ni aucune mère de famille ne songerait à dire à son fils, à son enfant, d'être derrière lui, et lui marcherait devant et l'enfant derrière. Non, l'enfant serait en danger. Alors cet enfant doit marcher devant son père, devant sa mère. Pourquoi? Parce que là, il serait sous la protection de son père ou de sa mère. Parce qu'il marche devant leur face, il marche devant eux, bien sûr. Et c'est la raison pour laquelle Dieu nous demande de marcher devant sa face. Comme ça, nous aurons l'assurance que Dieu est là et que nous n'avons rien à craindre parce que nous marchons en présence du Seigneur. Alléluia! Nous marchons dans la présence du Seigneur, où que nous soyons. Nous n'oublions pas la présence du Seigneur, où que nous soyons. Et nous ne sommes pas dans la présence du Seigneur seulement dans l'Église. Mais partout où je suis, partout où nous sommes. Et c'est ainsi que nous vivons dans la présence du Seigneur. C'est la première chose à souligner. Le Seigneur dit, marche devant ma face et sois intègre. Autrement dit, droit de cœur. Il n'est pas question de tergiverser. Il n'est pas question de chercher des faux fuyants. Dieu est là, il te voit, il connaît ton cœur, il connaît tes pensées avant même qu'elles ne te viennent à l'esprit. Mais toi, sois intègre, droit avec toi-même, droit de cœur et droit de pensée avec toi-même. Et sois droit de cœur, sois intègre. Et c'est la chose peut-être la plus difficile qui peut être demandée à un homme, à une femme, d'être intègre en tout temps et en toutes circonstances, sans chercher de faux fuyants, de faux semblants, d'être soi-même en toutes circonstances. Alléluia! D'être intègre en toutes circonstances, même si elles sont défavorables. Il faut être intègre, et c'est justement que l'intégrité nous est demandée quand les circonstances sont défavorables, et il faut rester intègre. Dieu s'adresse aux jeunes gens. Il a parlé d'abord aux enfants, ceux qui ont besoin d'avoir leur père ou leur mère derrière eux, à leur côté, les surveillant et veillant sur eux. Il s'adresse aussi aux jeunes gens, c'est-à-dire ceux qui sont à la moyenne d'âge, ceux qui, sur le plan spirituel, ont une certaine expérience avec Dieu. Ils ont déjà marché avec Dieu, ils ont fait quelques expériences avec le Seigneur, ils ne sont pas dépourvus, mais ils commencent à être armés. Ils commencent à mieux connaître la parole de Dieu, à mieux connaître les choses de Dieu. Alors ils s'adressent à ces jeunes gens, ils sont à la moyenne d'âge. Ce ne sont pas des adolescents, parce que l'adolescent n'est pas encore adulte, mais il n'est plus un enfant. Mais il s'adresse à ceux qui ne sont plus adolescents, mais à ceux qui sont d'âge mûr. Ce sont des jeunes gens. Et quelle est la caractéristique des jeunes gens? Eh bien, la caractéristique des jeunes gens, c'est qu'ils ont besoin d'avoir devant eux, j'aime pas trop ce mot en matière spirituelle, mais je l'emploie quand même, ils ont besoin d'un leader. Où ils ont besoin d'un exemple, d'un modèle, je préfère ce mot de modèle que de lui dire un modèle, un exemple. Alors évidemment, on regarde à droite et à gauche, et dans l'Église, eh bien, bien heureusement, eh bien, on peut rencontrer des frères, des sœurs, qui peuvent être considérés comme des modèles, pourquoi pas, des exemples, pourquoi pas, des leaders, j'aime pas trop, mais bon. Pourquoi pas, hein? Et c'est ainsi que ces jeunes gens ont besoin d'avoir devant eux des hommes, des femmes, des leaders, des exemples. Il y en a eu beaucoup. des leaders et des exemples. Mais y a-t-il un meilleur exemple que celui de la personne de Jésus? N'est-il pas le meilleur exemple, le meilleur modèle qui soit? Oh! N'est-il pas le meilleur modèle, le meilleur exemple qui soit? C'est vrai qu'il y a eu, autour de nous, il y en a peut-être encore, des hommes, des femmes, des frères et des sœurs qui sont de bons conseils. Je n'en disconviens pas. Mais quand même, Jésus est meilleur. Jésus est plus grand. Jésus est de meilleurs conseils, que son nom soit béni. Et c'est la raison pour laquelle Jésus nous dit dans Matthieu 11, « Recevez mes instructions et apprenez de moi. » Recevez mes instructions et apprenez de moi. Et nous avons besoin, bien sûr, frères et sœurs, de plonger nos regards dans la parole de Dieu, et plus particulièrement, sans négliger le reste, dans ce que Jésus lui-même nous dit dans les évangiles. Dans Jean 4, verset 34, il est écrit, « Ma nourriture est de faire la volonté de mon Père, et d'accomplir son œuvre. » Quand Jésus dit « Recevez de moi et suivez mon exemple », il dit « Ma nourriture est de faire la volonté de mon Père et d'accomplir son œuvre. » Combien je crois, frères et sœurs, que le cœur de Dieu se réjouit quand il voit ses enfants se nourrir de la volonté de Dieu. Et se nourrir d'accomplir l'œuvre de Dieu. Ils n'ont que ça dans leur cœur, faire la volonté de Dieu, accomplir son œuvre, mener jusqu'à la fin l'œuvre de Dieu, ne pas s'arrêter en cours de route. Et dans Jean chapitre 13, et verset 15, vous connaissez ce passage du lavage des pieds, à la fin duquel Jésus dira, « Voici, je vous ai donné un exemple. » Afin que vous suiviez mes traces. L'exemple de Jésus. Il prend une bassine qu'il remplit d'eau, il prend une serviette, il se met à genoux, aux pieds de ses disciples, et il leur lave les pieds. J'en ai connu beaucoup, qui n'auraient pas lavé les pieds des disciples, mais il leur aurait passé un savon. En passant par Dieu, monsieur, il leur aurait fait un shampoing. Hein? Mais non, lui, il se met à genoux aux pieds de ses disciples. Quelle humilité! Quel esprit de service! Quel exemple! Se mettre à genoux aux pieds de ses disciples et leur laver les pieds. C'était pas du faux semblant. Il ne faisait pas semblant de leur laver les pieds. Il leur a vraiment lavé les pieds parce qu'à cette époque, on n'avait pas les souliers étanches qu'on a aujourd'hui. On avait des savates et on marchait dans le sable et on avait les pieds pleins de poussière et de sable et on marchait. Et le Seigneur, comme les autres, eh bien, marchait, il avait les pieds sales et il s'est mis à genoux aux pieds. Quel exemple d'humilité et d'esprit service pour ses disciples! Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Je continue ma phrase ou j'arrête? Que Dieu nous aide à nous laver les pieds les uns les autres. J'ai été dans le nord de la France, dans une église polonaise, et tous les dimanches avant le culte, ils se lavaient mutuellement les pieds. À la lettre, comme Jésus le fait dans Jean 13. Ils se lavaient mutuellement les pieds avant la Sainte-Cène. Inutile de vous dire que j'en ai fait autant, mais je les ai lavés d'abord moi-même à la maison. Je n'ai pas voulu montrer mes pieds sales aux frères qui étaient là. Je les ai lavés, mais ils ont fait quand même le travail. Et dans Jean 12, il est écrit, si quelqu'un m'aime, qu'il me suive. faites fort comme parole. Si quelqu'un m'aime, qu'il me suive. Oui. Où? Dans quel chemin? Jusqu'où? À travers quelles embûches? Quels problèmes? Quelles difficultés? Si quelqu'un m'aime, qu'il me suive. Et nous savons ce que Jésus a rencontré comme embûche, comme problème, comme difficulté, comme ennemi sur son chemin. Et Jésus n'a pas peur de nous dire si quelqu'un m'aime, bien qu'il me suive. Qu'il n'ait pas peur des problèmes qu'il va rencontrer parce qu'il m'aura suivi. Qu'il n'ait pas peur de la persécution qu'il connaîtra parce qu'il m'aura suivi. Qu'il n'ait pas peur de la souffrance qu'il va connaître comme j'en connais. Parce qu'il m'aura suivi, qu'il m'aime, si quelqu'un m'aime, qu'il prouve son amour envers moi en ne reculant devant aucun sacrifice. Amen. Qu'il ne recule devant aucun sacrifice. S'il m'aime, qu'il en paye le prix. Qu'il le montre, qu'il le démontre et qu'il le prouve. Si quelqu'un m'aime, qu'il ne recule pas devant les problèmes et les difficultés que cela impose, bien sûr. Ainsi, à ceux qui sont entre deux âges, le Seigneur dit de le suivre, de se nourrir de sa nourriture, de faire ce qu'il faisait. Et s'ils veulent marcher d'une manière digne du Seigneur, parce qu'en fin de compte, c'est cela. C'est ce que Paul dit aux Colossiens. Nous sommes appelés à connaître et être remplis de toute la connaissance de sa volonté si nous voulons marcher d'une manière digne du Seigneur. Excusez-moi, je parle. Marcher dans Genèse 5, 22, le Seigneur s'adresse enfin au Père, à ceux qui ont connu le Père, celui qui est dès le commencement. Ils ont de l'expérience, ils sont définitivement établis dans la foi, ils ont acquis de la solidité dans leur vie avec le Seigneur, ils sont comme des piliers, comme des colonnes sur lesquelles on peut construire, on peut bâtir. Alors, quelqu'un peut-être me poserait la question de savoir, mais pendant combien de temps dois-je marcher avec le Seigneur pour prouver ma fidélité? Combien de temps? Dans le livre de la Genèse, dans Genèse, il est écrit que Enoch marcha avec Dieu, vous savez combien de temps? Oh! 365 ans. Enoch marcha avec Dieu 365 ans, et il ne fut plus parce que Dieu le prit. Il marcha avec Dieu 365 ans, puis il ne fut plus parce que Dieu le prit. Il y a plusieurs réflexions que nous pouvons en tirer. La première, c'est de dire, quelle patience, pendant 365 ans, être fidèle à Dieu, sans regimber, sans se révolter, sans faire marche arrière, sans regarder comme Madame Lotte derrière lui. Il marcha avec Dieu 365 ans. Puis la deuxième réflexion, c'est, il ne fut plus, parce que Dieu le prit, tout d'un coup il disparut. On avait l'habitude de le voir, on avait l'habitude d'aller le visiter. On avait l'habitude de parler avec lui, puis un jour, plus rien. en un beau tourné autour de sa cabane, eh bien, il est là, Dieu le prie. Vous savez, frères et sœurs, que ça arrivera, ça. Le jour de l'enlèvement de l'Église, il y a beaucoup de gens qui se poseront toutes sortes de questions en se disant, il est où, M. Basile? Il a disparu. Hein? Où est Mme Untel? Où est M. Untel? Ben, il marchait avec le Seigneur, on se moquait bien de lui, etc. Oui, mais Dieu le prit. Dieu l'a prise. Il marcha avec le Seigneur, il marcha avec Dieu, peut-être pas 365 ans, je ne le souhaite à personne parce que c'est beaucoup, mais il a été fidèle tout le temps qui lui a été confié, bien sûr. Il marcha avec Dieu 365 ans. Dans Michée, il est écrit, marche humblement avec ton Dieu en pratiquant la justice et en marchant et en aimant la miséricorde. Voilà ce qui est demandé aux anciens, aux pères. Marcher dans la foi. Continuer à marcher avec Dieu pour marcher d'une manière digne du Seigneur. La foi et la persévérance, comme Enoch, pendant 365 ans. Marcher, même si les jours ne sont pas toujours faciles, le Seigneur nous avertit, car la parole de Dieu nous le dit, car c'est avec beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Il y a un impératif qui est employé là. C'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. On n'entre pas dans le royaume de Dieu avec facilité. Il faut payer le prix, non pas un prix salutaire, qui sauverait notre âme, non, mais qui nous permet d'entrer dans le royaume de Dieu, bien sûr. Marcher d'une manière digne du Seigneur. C'est quoi? Ça revient à quoi? Quelle serait notre conclusion? C'est marcher devant le Seigneur en ayant le sentiment qu'il est toujours là pour veiller sur nous. J'aimerais vous poser une question, mais je ne vous demanderai pas de réponse. Est-ce que vous avez le sentiment que le Seigneur est avec vous? Est-ce que mon frère et ma sœur, est-ce que tu as le sentiment que le Seigneur est avec toi? Quand le Seigneur dit « Je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde », est-ce que j'ai le sentiment que le Seigneur est là? Non seulement il est là, mais il est avec moi, je suis avec vous. Et ça veut dire quoi que le Seigneur est avec nous? Ça veut dire qu'il est l'adversaire de nos adversaires, l'ennemi de nos ennemis. Ça veut dire qu'il est de notre bord, il est de notre côté, il est avec nous, que son nom soit béni. Mon frère, ma sœur, le Seigneur est avec toi, il est de ton côté. Si tu es enfant de Dieu, si tu es enfant de Dieu, si tu es né de nouveau, si un jour tu es devenu une nouvelle créature, tu as changé de vie. Dernièrement, j'ai lu sur Internet la conversion d'un homme. Deux coups d'un seul. Le Seigneur s'est révélé à lui et il lui a dit « Je t'aime, je suis mort pour toi ». Cet homme a changé de vie, d'un moment à l'autre, d'un instant à l'autre. Il a changé de vie, il est devenu différent. Il a commencé par haïr son ancien moi pour aimer son nouveau moi. Il a détesté son ancien moi, son ancienne nature. Son ancienne nature pécheresse qui le conduisait à l'enfer. Tout à coup, il a eu de la haine, de l'aversion, et il a aimé cette nouvelle nature qu'il venait de découvrir, qu'il venait d'investir. Mon frère, ma sœur, si tu es enfant de Dieu, si tu es né de nouveau et que tu as le mérite d'être appelé enfant de Dieu, alors tu n'as rien à craindre. Marcher derrière Jésus, c'est-à-dire mettre nos pieds dans l'empreinte de ses pas, pour marcher comme il a marché lui-même. Comment pourrait-il veiller sur nous si nous ne mettons pas nos pieds dans l'empreinte de ses pas, de marcher comme il a marché lui-même. Puis enfin, marcher avec Dieu, c'est marcher à son rythme. C'est marcher au rythme de Dieu, pas au nôtre, mais au sien. Il y a des gens qui vont trop vite, qui brûlent les étapes, mais il y en a d'autres qui les ignorent, les étapes. Alors, restant en arrière, moi, je me souviens toujours de ce frère qui m'a dit un jour, « Oh, moi, j'ai été baptisé d'eau, ça suffit. Je ne veux pas aller plus loin. » Ah bon? Il ne voulait pas aller plus loin dans sa marche avec le Seigneur. Ça veut dire qu'il sera toujours en retard. Il sera toujours en retard. Il aura toujours des choses à faire, à apprendre. Non, il nous faut marcher au rythme de Dieu pour ne pas faire ce qu'il ne nous a pas demandé de faire et de ne pas d'aller là où il ne nous a jamais demandé d'aller. Voilà. Que le Seigneur nous aide, frères et sœurs, à être remplis de la connaissance de sa volonté pour marcher d'une manière digne du Seigneur. Et je crois que c'est ce que nous désirons, c'est ce que nous voulons, c'est ce qu'il y a au fond de notre cœur, être agréable au Seigneur. Être agréable au Seigneur. Si je ne suis pas agréable au Seigneur, qu'est-ce que je fais sur la terre? Quel est mon rôle sur la terre? Quelle est ma mission? Mais qu'est-ce que je fiche sur la terre si je ne suis pas agréable au Seigneur? À quoi ça sert? Jouir du soleil? Jouir de la nourriture? Me contenter des choses de la terre, et c'est tout, je suis là pour ça. Non, je ne suis pas là pour ça. Non, mon frère, ma sœur, tu n'es pas là pour jouir des bienfaits de la terre, mais tu es là pour glorifier le Seigneur. Amen. Amen. Tu es là pour glorifier le Seigneur. Jésus a dit, le concernant, bien sûr, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Et nous nous réjouissons des paroles de Jésus. Je suis la lumière du monde. Attendez, il ne dit pas que cela. Il dit aussi, vous êtes la lumière. Vous êtes la lumière. Amen. Merci Seigneur pour ta bonté envers nous. Merci notre Dieu, notre bon et tendre Père céleste, de ce que tu nous as attirés à toi. Tu as fait tomber les écailles de nos yeux. Tu nous as convaincus de péché. Nous étions perdus. L'enfer avait déjà ouvert toute grande sa gueule pour nous avaler et nous faire périr pour l'éternité. Mais dans ta grâce, dans ta bonté infinie, tu as permis que l'Évangile nous atteigne. Tu as touché nos cœurs à salut. Tu nous as convaincus de péché, de justice et de jugement. Les écailles de nos yeux sont tombées, nos cœurs se sont ouverts et nous t'avons reçu dans notre cœur comme notre sauveur personnel. Oh, sois béni, Seigneur, et sois loué de tout notre cœur. Nous t'adorons, Seigneur. Et ce que nous voulons, c'est te glorifier pendant notre passage sur cette terre. Être entre tes mains des instruments de salut, des instruments de bénédiction, être la lumière entre tes mains pour éclairer ceux qui sont dans les ténèbres. Aide-nous, Seigneur, à bien remplir notre mission, à bien connaître ta volonté, être rempli de la connaissance de ta volonté pour t'être agréable et marcher d'une manière digne de Dieu. Béni sois-tu, Seigneur. Merci pour le don ineffable et glorieux de Jésus, notre Sauveur. Amen. Amen.